the ones who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. Given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad buddy's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, L'étau de soie, production mise en scène Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Toutes les deux tranquillement, sans souci d'argent. Madeleine a l'héritage de son père et ses actions. Eugénie la pension du sien. Les deux femmes sortent peu. Dans le monde, l'on fait plus attention à ces deux couples, un couple plus masculin que féminin. Madeleine continue à écrire et à se faire éditer. Un jour, une grande nouvelle. Elle a reçu un prix littéraire. On l'invite. L'invitation, la plupart du temps, se passe en invitant Eugénie. Eugénie voit sa compagne, heureuse, fébrile, sans elle, ou plutôt sans son aide. Elle la voit prendre des initiatives, sortir, se prendre en main. Elle en souffre, puis en est jalouse. Moi aussi, j'écris. Elle va finir par ne plus avoir besoin de moi. Elle voit que durant les soirées de Madeleine, que Madeleine est entourée par d'autres femmes et même jeunes filles. Elle a peur que Madeleine s'épanouisse, s'amourache auprès d'autres. Ça aura fini pour moi. Elle me rejettera. En réfléchissant, elle se dit, si elle a du succès, c'est grâce à moi. C'est moi qui lui fais tout pour qu'elle puisse écrire
que c'est à Mariana que nous devons l'excellente idée de
tranquillement. sans être gêné. J'ai
l'impatience de vous connaître.
Qui ne serait pas impatient de rencontrer l'homme qui a capturé Gungunana tout seul? Non, l'homme qui, tout seul, a capturé Gungunana. Gungunana, n'est-ce pas?
Oui, oui, mais...
J'ai du mal à vous imaginer seul au milieu de la brousse avec des milliers de noirs autour. Les lions, les serpents...
Au lit, elle essaye de reprendre le dessus en la faisant jouir. Malheureusement, elle s'aperçoit comme à l'aine et ailleurs. Je lui suis de moins en moins indispensable et se détache de moi. Et
oui.
Madeleine est tellement fière d'être reçue comme écrivain que cela lui donne le goût de la vie en société.
Oui, presque.
Elle va, elle vient dans toutes les soirées.
Non. Je n'en parlerai plus.
Bal,
je ne gêne pas,
représentation théâtrale, etc.
Vous êtes jeune.
Il me semblait pas très âgé non plus, madame la comtesse.
Ah, vous trouvez? Avec tout le monde, madame la comtesse, je commence à me sentir un peu votre grand-mère.
Oh, je suis navré, madame la comtesse.
Malheureusement, le succès du premier roman s'estompe et le second en a moins. Je n'y dédie. C'est normal qu'ils soient moins bons. Ils avaient écrit trop rapidement et l'esprit ailleurs. Pour bien écrire, il faut s'isoler du monde. Madeleine, après toute cette frénésie, tombe malade. Fatiguée, rien de grave. Le médecin vient le sculpter. Un bon repos, bien manger, et voilà tout. C'est simplement de la fatigue. Une fois que le médecin est parti, Eugénie va voir Madeleine dans sa chambre. Le médecin veut le repos le plus complet. Tu es bien malade. Mais il m'a dit que je n'étais qu'un peu fatiguée. Il t'a dit ça, ma chérie, c'est pour pas te faire peur. Mais ne crains rien, je suis là pour te soigner. Tu sais, ma chérie, tu seras très bien. Je serai là, ne te fais pas de soucis. Elle l'embrasse. Madeleine se sent tout de suite mieux. Je crois que demain, je pourrai me lever. Ouh, surtout pas! Tu es trop faible. Eugénie donne des ordres domestiques. Ne lui prépare que des bouillons de légumes. Pas de visite. Elle ne doit pas sortir de sa chambre. Elle est trop faible. Ne faites pas venir le médecin, c'est un imbécile. Il n'y connaît rien. Moi, je suis là. Les domestiques lui obéissent à la lettre. Madeleine, avec son régime de légumes, oui, continue à s'affaiblir et reste au lit. Mais elle est heureuse parce qu'on s'occupe d'elle. sonne souvent à la porte des admirateurs qui n'ont plus de nouvelles. Les domestiques leur disent qu'elle est trop faible pour recevoir des visites. Tout Paris s'inquiète. L'on chuchote qu'elle est trop malade. On dépose des roses chez elle. Zélie les fait jeter parce que l'odeur des fleurs risque de gêner la malade. Madeleine, de sa chambre, elle entend qu'elle a des visites. Elle demande à Eugénie. Qui était-ce? Des gens, ils veulent avoir de tes nouvelles. Je leur dis que tu es trop faible pour les recevoir. Un après-midi, alors qu'elle se repose, Eugénie lui a donné pour dormir. On sonne à la porte. La domestique va ouvrir.
Voilà. C'est Thomas. Je prends des nouvelles de mademoiselle. Mademoiselle est très faible. Elle ne peut recevoir. Qu'a-t-elle? Elle est faible. Puis-je tout de même la voir? Non, monsieur. Puis-je parler à quelqu'un? Je vais voir, monsieur. Entrez. La domestique le laisse pour aller au salon trouver Eugénie. Entrez. Elle entre. Madame, il y a un jeune homme qui veut voir quelqu'un pour lui donner des nouvelles de mademoiselle. Qui est-ce? Un ancien ami de mademoiselle, monsieur Thomas. Ah oui, amenez-le-moi. Bien, madame. Et la bonne va vers Thomas. Venez, monsieur. Entrez. Thomas entre. Elle est debout. Elle le reçoit debout.
Madame, je m'excuse de vous déranger, mais j'aimerais avoir des nouvelles de mademoiselle Evard. Monsieur, je vous remercie de vous inquiéter de la santé de mon amie. Malheureusement, elle est très faible et a besoin de beaucoup de repos. Est-ce grave? Avec le calme, elle se rétablira. Puis-je la voir? Non, monsieur, puisqu'il lui faut beaucoup de repos. Bien, madame, vous lui direz que je suis passé la voir. Je n'y manquerai pas. Pourrais-je revenir pour avoir de ses nouvelles? Pas la peine de vous déranger, monsieur. Elle vous le fera savoir quand elle voudra vous recevoir. Bien, madame, alors il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir, monsieur, et merci d'être venu.
Et il la quitte. Eugénie monte à la chambre de Madeleine. Elle entre dans la chambre. Madeleine est dans son lit, assise.
J'ai entendu la sonnette de la porte d'entrée. Quelqu'un est venu? Rien n'importe, ma chérie. Un fournisseur. Il voulait absolument me voir pour une facture. Madeleine sait, par la bonne, que c'est Thomas qui est venu. Elle ne dit rien. Peut-être tient-elle plus à sa tranquillité qu'à sa liberté. Les jours passent. Madeleine, malgré les potages, se sent mieux. Elle reçoit de plus en plus de courriers, des invitations, des demandes de contrats pour son futur roman. Alors, elle veut absolument recommencer à écrire. Un matin, dans sa chambre, alors qu'elle prend son petit déjeuner au lit, elle le dit à Jenny. « Je sens tout à fait bien maintenant. Il faut que je me remette au travail avant que les gens ne m'oublient. Et puis j'ai des tas d'invitations. » Eugénie pince ses lèvres et lui dit « Tu te sens peut-être bien, ma chérie, mais c'est parce que tu ne fais rien. Dès que tu reprendras ton travail, la fatigue va revenir. Ce n'est pas tant d'écrire qui te fatigue, mais tout le reste. Et puis, tu as vu ton dernier roman. Il n'a pas eu du succès parce qu'il a été écrit dans la fièvre. Il te faut du calme pour écrire. T'isoler !» Madame lui dit, je veux bien. Eugénie lui dit, je sais, mais ce n'est pas facile à Paris. Il te faudra un endroit calme. Je vais y réfléchir, ma chérie. Bien, fais comme tu veux. Tard, elles sont toutes les deux assises au salon à prendre leur thé. Eugénie lui dit, chérie, j'ai une grande nouvelle pour toi. Ah, quoi? J'ai trouvé l'endroit où tu pourras travailler tranquillement. Hélène sent comme un étau se resserrer sur elle. Et vous, où est-ce? Une belle petite maison au milieu des champs, en face d'un coteau boisé. Un véritable petit nid d'amour pour nous deux. Elle se trouve où? Dans un petit village entre Grenoble et Lyon. Le Motier. Mais c'est loin de Paris. Eugénie lui dit. Comme cela, tu seras plus tranquille pour travailler. Madeleine sent déjà en exil, là, loin de tout. Cela te va, ma chérie? Oui. Très bien. Elle n'ose pas dire non. Eugénie est devenue indispensable dans sa vie. C'est elle qui s'occupe de tout. La maison, le déjeuner, toute l'organisation. Madeleine n'a que se laisser vivre. En plus, Eugénie sait des caresses qu'il faut. Madeleine est-tu comme un canari en cage, qui sait qu'il est en cage, mais qui sait aussi qu'il ne peut vivre en dehors de sa cage. Très vite, Eugénie, comme si elle avait peur que Madeleine change d'avis, prépare leur départ. C'est elle qui s'occupe de tout. Madeleine n'a rien à faire que de se reposer. Elle l'a convaincue de vendre la maison et de renvoyer les domestiques. À la campagne, nous n'aurons besoin de rien, et nous nous débrouillons très bien toutes les deux. Madeleine ne dit rien. Elle espère. Elle a promis à son éditeur en roman qu'elle commencera après son déménagement. Elle a envoyé à toutes ses connaissances une lettre les prévenant de son départ dû à un besoin de calme. Paris est trop bruyant pour elle. 2 mois plus tard, la maison est vendue et Eugénie, qui s'en est occupée, les domestiques congédiés. Sont partis. Avec bagages, sans meubles. Eugénie lui a dit qu'à la campagne, on n'avait pas besoin de beaucoup de choses.
Madeleine se laisse guider. Elles ont pris le train jusqu'à Lyon, puis à Lyon, ont pris la diligence jusqu'au métier. C'est l'été, l'herbe est verte et jolie. Après plusieurs heures, elles arrivent enfin. La maison est un peu en retrait du village, à un étage au fond d'une cour, avec un jardin, un chemin y mène. Elle n'est pas très grande ni belle. C'est une ancienne ferme. Madeleine est surprise et se demande ce qu'elle va faire dans cet endroit isolé. Dans quel dépit elle s'est mise. Elle ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Eugénie semble heureuse. Enfin, elle a sa Madeleine pour elle toute seule. C'est elle qui a ouvert la porte. Et la fait entrer. Madeleine a entendu la porte se refermer derrière elle. Elle a l'impression que la porte de sa cellule vient de se fermer. Il y fait sombre. Eugénie ouvre les fenêtres et les volets. Eugénie lui montre la maison. On entre directement dans une pièce que l'on peut appeler le séjour, coin cuisine, avec une espèce d'évier. À terre, c'est un parquet blanc non ciré. Les murs sont peints de différentes couleurs. C'est sombre, triste. Au dehors de la pièce, il y a une porte qui donne à une chambre, petite pièce, et un escalier de bois qui donne à l'étage. L'escalier est simple, ressemble à un escalier qui mène à un grenier. Au premier, il y a deux pièces, 10 chambres, et à côté, un coin grenier. Madeleine est déconcertée et triste. Eugénie lui dit, « Tu verras, nous serons très bien ici. Notre chambre sera là, et ton bureau à côté. » Madeleine se demande ce qu'elle va faire dans ce lieu. L'eau se trouve à une fontaine, dans la cour, près du jardin. La cour, c'est de la terre, et le jardin, un jardin potager en friche. Madeleine sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière, et qu'elle se sent en prise de génie qui la tient. Les jours passent. Une fois qu'elles ont rangé leurs affaires, la vie commence pour elles. Eugénie gère tout. C'est elle qui s'occupe du repas, du ménage, du courrier. Je dois lui être indispensable pour qu'elle ne puisse vivre sans moi, pour qu'elle soit à moi. Madeleine, pour sortir de cette vie médiocre, s'enivre dans l'écriture. Elle s'enferme des journées entières pour écrire. Là, dans l'écriture, elle voyage. Elle s'évade, elle mène une autre vie. Elle déteste la vie qu'elle mène, et en même temps, elle y trouve calme et sécurité. Elle aime que l'on s'occupe d'elle. C'est peut-être à cause que sa mère, parce qu'elle l'a perdue jeune, et que son père s'est trop occupé d'elle. Les jours passent, Madeleine écrit. Elle sort très peu. Juste pour faire une marche dans les champs. Les deux femmes vivent sans voir presque personne. D'ailleurs, il n'y a que des paysans. Eugénie s'occupe de tout, paye tout avec l'argent de Madeleine. Au fil des mois, leurs rapports amoureux, intimes, deviennent de la routine et ne font l'amour que deux fois par mois. Madeleine écrit beaucoup, a des rapports avec ses éditeurs pour écrire, par lettre. Ses livres ont de bons succès d'estime. Eugénie a écrit aussi sur des cahiers, leur journal, tout ce qu'elles font. Le temps passe. La guerre de 14 elle l'a vécu dans leur petit village sans grand changement, à part le courrier qui vient plus lentement et le prix très élevé des aliments.
Vous êtes blessé, mon général.
Ce n'est pas là que je le suis. C'est là qu'elle est, ma blessure. Empêchez-les de fuir. Retirez-les, pour le coup.
Au fil des années, Eugénie s'était grise, se met en colère pour un rien. Elle tient à ce que Madeleine reste dans sa chambre ou dans son bureau à écrire. Elle n'aime pas qu'elle reçoive du courrier et y réponde. Toutes les deux ont pris le physique de deux vieilles femmes de la campagne, habillées de vieilles robes noires, coiffées en chignon ou coupé court, chaussures, brodequins ou sabots. Les gens du visage les appellent les sorcières. Les éditeurs demandent souvent à Madeleine de venir à Paris présenter et signer ses livres qui ont du succès. Elle le dit à Eugénie.
Et si j'allais à Paris, pourquoi faire ?
Pour voir mes éditeurs, mes lecteurs et revoir mes amis aussi. Tu sais très bien que Paris ne te va pas. Et puis, cela coûte cher. Restons ici, on est très bien. Paris ne te manque pas ? Non, pas du tout. Je crois que ce serait bien pour mon travail que j'aille à Paris. Pourquoi faire ? Pour que tu perdes ton temps dans les mondanités ? Et puis, tu seras très déçu, tu sais. Les gens ne t'aiment pas tant que ça. Ils vont se moquer de toi. Allez, restons ici, tranquille. Bon, puisque tu le veux. Elles ont fait installer le téléphone dans le séjour, mais c'est Eugénie qui répond toujours.
Allô ? Oui ? Non, elle ne peut pas vous recevoir. Elle est trop faible.
La porte s'ouvre. C'est Madeleine.
Pourquoi tu dis que j'étais trop faible ?
C'est un raseur, un tissant de journaliste. Et si je veux le recevoir ? Tu ne le recevras pas. Je ne veux pas d'importun chez moi. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça. J'ai l'impression c'est que tu es jalouse de moi et que tu ne veux pas que je reçoive les hommages de mon succès. Tu racontes n'importe quoi. Jalouse, moi, de toi ? Et puis quel succès ? Va donc dans ta chambre. Si je le veux, puisque tu me parles ainsi, je m'en vais. Eh bien, va-t'en.
J'ai envie de vivre, d'être libre. Très bien, je m'en vais. Moi, qui t'ai soigné, aidé, voilà ma récompense.
Elle sort de la pièce. Tout à coup, Madeleine voit tout tourner autour d'elle. Les factures, la cuisine.
Elle apporte du téléphone. Panique et crie. Eugénie !
La porte s'ouvre.
Je t'en prie. Le téléphone, Eugénie.
Tu m'as dit de partir. Non, reste.
Tu sais très bien que je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai toujours été une femme gâtée. J'en supplie. Réponds au téléphone. Ça me fait peur.
Et Eugénie répond au téléphone.
Allô ? Oui ? Non, elle est trop faible. Au revoir.
Eugénie la regarde bien et lui dit.
Va dans ta chambre. Je m'occupe de tout.
Et Madeleine obéit en se disant qu'elle a toujours fallu que quelqu'un s'occupe d'elle. Oui. Il a toujours fallu que quelqu'un s'occupe de moi.
Madeleine ne sait rien faire à part écrire. Eugénie est une femme du monde et fait comme elle peut. Ce qui fait que la maison est devenue, ou plutôt est restée, un vrai taudis. Meubles et clairocrites achetés chez les paysans, plein de poussière, toiles d'araignée, livres traînant un peu partout, vêtements en vrac dans les armoires ou sur les chaises. Vaisselle sale amène la table. Et leur vie reprend. Le temps passe. Elles sont devenues deux vieilles femmes habillées de noir, sales, cheveux défaits, gris, moustaches, dents moins fortes. On dirait deux sorcières, deux sœurs, deux sorcières. Madeleine écrit toujours beaucoup ses livres, mais ses livres ont moins de succès. Elle est un peu oubliée. La guerre de 40 est passée. Celle d'Algérie. De mai 68.
À la soufflante maintenant. Je ne sais pas comment on pourra dire longtemps là. Je me trouve juste derrière la barricade. Je ne sais pas comment je pourrais. Les nuages de chlore arrivent maintenant et vraiment...
Le village est resté le même, 500 habitants, toujours aussi peu d'eau, et les fermes, toujours aussi pauvres. Leur maison se dégrade, comme elles vivent petitement, leur fortune est restée intacte malgré le peu d'argent que rapportent les livres. Ils ne se parlent presque plus, un mot, un geste suffit. Personne ne vient les voir, à part... le facteur et les lettres des éditeurs, pas de courrier. Le téléphone marche presque pas. Madeleine ne pense plus à Paris. Son monde, c'est ici. Elle ne se pose plus de questions si elles s'aiment. Elles sont ensemble et voilà. Mais, en lisant ses livres... l'on voit que Madeleine rêve d'autre chose. Ils sont pleins de gens qui voyagent, de beauté, d'amour. Alors pourquoi vit-elle cette vie-là ? Où a-t-elle vécu cette vie ? Elle aurait pu vivre comme elle le souhaitait, avec tout l'argent qu'elle aurait pu avoir. Mais la crainte de perdre la crainte de se perdre les inconvénients, l'ennui de faire des choses, le besoin que l'on s'occupe d'elle, l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et Eugénie, Eugénie a su se rendre indispensable. Sans elle, elle est perdue. Sans elle, elle est perdue, la pauvre Madeleine. Parce qu'elle a peur de prendre des initiatives. Elle est perdue sans Eugénie. Un après-midi d'été qu'il fait très chaud, Madeleine est à son bureau à écrire. Eugénie est sortie avec un broc pour prendre de l'eau à la fontaine, car elles n'ont pas d'eau courante. Elle a très chaud, le corps qui bat, des difficultés à marcher. Arrive enfin vers la fontaine. Sa tête se penche. Elle voit sur le bord le reflet du soleil sur l'eau. Cela lui donne la nausée et le vertige. Noir. Elle est tombée en avant. Son cri a surpris Madeleine, qui a couru à la fenêtre. Elle la voit allongée à terre, inanimée, près de la fontaine. Oh, mon Dieu! Vite, elle est sortie de la chambre et de la maison. Elle court à elle. Se penche, la touche. Eugénie! La retourne. Et voit son visage fixe, les yeux rougis, la bouche ouverte. Mon Dieu, elle est morte. Vite, elle court à la maison. Va au téléphone. Ouvre le carnet pour prendre le numéro du médecin. Elle n'a jamais téléphoné. Mais là, elle le fait. Un mois plus tard, après les funérailles, les formalités, la famille d'Eugénie, Madeleine a fait tout ça toute seule. Elle pense à tout ce qu'elle a fait. J'ai réussi à faire tout ça toute seule. C'est pas si difficile que de faire des formalités et d'agir. Elle est fière d'elle. Elle se dit qu'elle est capable de vivre seule et de faire ce qu'elle veut. Enfin, elle ressent un grand soulagement. Et a envie fou de vivre, enfin que de temps perdu pour rien, parce que elle croyait, se croyait incapable de faire quoi que ce soit. Maintenant, pour elle, Eugénie, c'est du temps perdu. Son amour pour elle est oublié. Elle regarde autour d'elle. Qu'est-ce que je fais ici? Dans quel caudis, au milieu de ces gens? Elle décide de vendre et de retourner à Paris. Elle écrit à ses éditeurs qu'elle veut revenir à Paris. Elle va vendre sa maison et décide d'aller à Paris vivre à l'hôtel en attendant d'avoir une maison. Elle a tout vendu. En vendant la maison, elle trouve les cahiers d'Eugénie, le lit. Elle voit qu'Eugénie n'était pas ce qu'elle croyait. Elle était pour elle. Elle était pour Eugénie qu'un objet, pour assouvir sa puissance. Elle brûle les cahiers et quitte le village sans une valise, juste ses papiers. Elle est allée à Lyon. Arrivée à Lyon pour s'acheter des vêtements, la ville, la foule, les bruits, les odeurs, les voitures, les magasins, tout ça l'étourdit. Elle a le vertige, tout a tellement changé et tout va si vite. Son corps bat très fort. Elle se sent vieille femme, fragile, au milieu de tout ça. Elle va rentrer dans un magasin qui se trouve rue des Archers pour s'acheter des vêtements. La vendeuse fait la tête en la voyant. « C'est très cher ici, madame. Mais j'ai de l'argent, ma fille. » Puis, elle sort du magasin avec des amis neufs. Les autres, elle les a fait jeter. Puis, elle va dans un restaurant déjeuner et retourne à la gare. Là, sur le quai, au milieu de cette foule, elle qui est restée toute sa vie seule, elle a des difficultés à se déplacer. Elle risque de s'évanouir. Tout à coup, elle voit, venant vers elle, Thomas. Son corps bat très fort.
Vous avez le numéro 51, madame.
Merci.
Son Thomas n'a pas changé. Il est là. Il vient vers elle. Son corps bat de plus en plus fort. Il s'approche d'elle. Elle tombe à la renverse. Tombe à la renverse. La foule s'arrête l'instinct. Une femme dans les 30 ans, grande, mince, blanche, demande au jeune homme. Vous la connaissez? Non? Elle a crié Thomas. Je m'appelle Frédéric. Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junet Jean-Pierre, L'étau de soie, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Junet Jean-Pierre, enregistrement CVRP.